Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les filles.
Et bonjour.
Salut Guillaume, bonjour à tous.
Coucou, salut.
Salut Anne-Marie.
Salut Caroline.
Alors on se retrouve pour une émission enregistrée. On vous a fait faux bond la semaine dernière, hein. Désolé, on a eu un petit peu du mal une fois de plus à se retrouver. Au programme aujourd'hui, Anne-Marie, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, je vous propose de partir en vacances.
D'accord, très bien.
Bonne idée.
Ça commence à se préparer pour,
exactement,
pour cet été.
Exactement. Et toi, Guillaume, de quoi tu vas nous parler?
Eh bien, moi, je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui quitte le département, on l'a lu dans Midi Libre ce week-end, et puis on l'a entendu aussi sur les ondes de 48FM. Donc, un petit coucou avec les Luc célèbres.
Très bien.
Et toi, Caro, de quoi vas-tu nous parler?
Alors moi, c'est un peu comme Anne-Marie, on va préparer un peu l'été et je vais vous parler BD et loisirs. Donc.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et on commence avec toi, Anne-Marie. Voyage, voyage.
Bon, alors,
oui.
on pose nos vacances, là, ça y est.
Bah, si tu veux, effectivement, et puis on va voir justement ce qu'on va pouvoir faire pendant ces vacances. Alors juste quand même pour commencer en vous disant que dans quelques semaines, effectivement, on va faire nos valises, mais pas tous les Français partiront en vacances, puisque à peine la moitié des Français envisagent de partir en vacances cet été. Beaucoup moins que l'an dernier, puisque l'an dernier, c'est simple, c'était à peu près 63% des foyers français qui prévoyaient de partir en vacances. Donc là, je vous dis à peine la moitié. Donc effectivement, les chiffres sont là et on voit que la crise aussi est passée par là. D'ailleurs, ils étaient 60% en 2014. Donc à cause de la crise, hein, les Français privilégient les hébergements gratuits. Donc, quand j'entends hébergement gratuit, bah, effectivement, on va chez sa famille, voir ses parents, ses cousins, cousines, ou carrément, on va aussi chez nos amis, voir, bah, pour ceux qui ont des résidences secondaires, on reste chez nous, du coup, enfin, même si on part en vacances, mais voilà, on va dans une résidence secondaire. En 2015, la Bretagne, hein, concernant donc, la destination préférée des Français, c'était la Bretagne, hein, qui montait sur le podium. Et puis, en troisième place, derrière donc, la région PACA et le Languedoc-Roussillon, donc la Bretagne détrônait l'Aquitaine. C'est vrai que les gens aiment bien partir en Bretagne. C'est une belle région.
Ah bah carrément, oui.
C'est une très belle région, même. Je trouve qu'il garde son caractère authentique, même si, effectivement, bon, il ne fait pas toujours très beau. Mais c'est une belle région.
Il crache un breton à son charme.
Oui, voilà, c'est ça.
Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il fait plutôt beau en Bretagne.
Bon.
Oui, mais je crois que les vacances dernières, pour le coup, il a.
Oui, c'était plutôt pas mal.
C'était une bonne saison, oui.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'il pleut tout le temps en Bretagne, mais bon. Alors cet essor, hein, des vacances franco-françaises est apparu donc après la crise de 2008. Elle semblait temporaire, finalement, avec la recrudescence des attentats. On l'a vu, hélas, ces derniers temps à l'étranger. Eh bien, cette recrudescence a transformé ce phénomène temporaire en tendance de fond qui s'accentue donc d'année en année. Concernant les pays étrangers, alors il y a un top 3. Eh bien, savez-vous lequel, d'ailleurs? Savez-vous quelles sont les destinations privilégiées?
Il doit y avoir la Croatie, la Grèce peut-être, le Portugal maintenant qui cartonne.
Guillaume?
Les États-Unis?
Alors, t'es pas très loin, Caroline. Effectivement, il y a la Grèce, mais en top 3, on a quand même l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le Portugal va se faire une place.
J'en entends de plus en plus parler et on me dit de plus en plus qu'il faut y aller avant que ça devienne hors de prix, comme certains pays du sud, justement, de l'Europe, alors que ça reste pour l'instant une destination moins coûteuse, on va dire. Hein,
oui, oui.
Et c'est la Croatie aussi qui est dans ce même ordre
d'idée. Tout à fait.
C'est vrai. Autre tendance...
Enfin, en tout cas, pardon Anne-Marie, mais les gens cherchent le soleil, donc, quand même.
Ah bah oui.
Vu ce top 3, oui, c'est vrai.
Et ça aurait pu être Finlande, Norvège,
oui, non, mais...
Pays-Bas,
ah, c'est vrai que qui dit été dit quand même soleil. On recherche tout ça, effectivement.
C'est sûrement un peu la mer, quoi.
Autre tendance, alors que certains ne partent pas du tout en vacances, eh bien d'autres diminuent la durée des séjours, mais augmentent le nombre. On les appelle les multipartants. Voilà, quitte à se faire des longs week-ends plusieurs fois dans l'année et pas partir 2 ou 3 semaines d'affilée.
C'est pour ça que tu peux partir avec des personnes différentes à chaque fois.
Oui,
c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais ça diversifie aussi, oui, les destinations. Alors bien évidemment, partir 3-4 jours, c'est moins reposant que de...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, du coup, c'est pas forcément le même objectif, mais...
Bah, surtout si tu fais de l'avion, etc. Enfin, si tu fais beaucoup de déplacements, quoi.
Bah, c'est surtout si t'habites en Lozère, parce que quand t'habites à Paris, c'est quand même plus pratique de faire des longs week-ends. Moi, je sais pas, à Paris, l'Espagne, tout est proche. C'est vrai, quand t'es en Lozère,
tout est loin.
Tout est loin. Et donc, ma question est simple. Est-ce que cet été, vous avez décidé de partir? Et si oui, où?
Alors oui, moi, je pars au soleil.
Bon, tu pars au soleil. Tu as bien raison. Donc, pas en Bretagne.
Non, pas en Bretagne et pas en France.
Bon.
Et bien, moi, je suis en pleine hésitation. Pour tout vous dire, ça fait 2 ou 3 week-ends...
Dis-nous, on va t'aider, Guillaume.
...que je passe mon week-end à essayer de trouver une offre au rapport qualité-prix suffisant...
Mais peut-être que ma chronique va t'aider, alors.
Et oui, justement, j'attends avec attention la suite de cette chronique.
Donc, pour le moment, t'es pas fixé?
Non.
Bon, alors, cette chronique, finalement, va te concerner.
Et toi, Anne-Marie, tu nous as pas dit.
Alors, oui, je parle. Je reste en France. Normalement, je vais au soleil, je vais en Vendée. Voilà, au bord de la mer.
C'est pas toujours sûr, ça, c'est un peu comme la Bretagne, hein, le crachat parfois.
C'est vrai. Bon, j'y vais chaque année. Donc,
c'est vivifiant en même temps.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que de toute façon, ça change d'air, ça fait du bien. Et puis, j'y retrouve ma famille, donc voilà. Alors, si vous préférez rester en France, donc c'est pour ça que là, pour le coup, Guillaume, je te regarde.
Prenons cette hypothèse.
Mais peut-être que tu détestes retrouver avec d'autres touristes. Hein. C'est parfois un peu le souci. Par exemple, quand on va sur la côte méditerranéenne, rien que pour trouver de la place pour sa serviette sur le sable, c'est compliqué. Alors, je vous conseille de vous procurer au plus vite le livre de Vincent Noyoux. Alors, vous avez sûrement dû en entendre parler ces derniers temps, puisque c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de promotions faites par les médias. Ce livre s'intitule « Tour de France des villes incomprises ». Sous-préfecture ennuyeuse, vallée sinistrée, port industriel, ville de garnison, station thermale décrépite, banlieue lointaine, la France ne manque pas d'endroits où pour rien au monde on irait passer un week-end ou même voir des vacances. Partant du principe qu'un clair de lune à Maubeuge vaut bien un coucher de soleil à Malibu, Vincent Noyoux en a choisi 12. 12 villes méprisées de tous. Jetant ses préjugés aux orties, il est parti à la découverte de ces territoires méconnus. Il livre ici le portrait d'une France boudée et incomprise, Mulhouse, Velouse, Guéret. Alors évidemment, je vous en ai parlé parce que Guéret, ben, je suis de Guéret voilà, ça m'a fait plaisir qu'il en parle. Cholet.
C'est une ville incomprise?
C'est sûrement une ville incomprise, oui. Oui, oui, mais il a raison puisqu'elle fait partie de toute façon de ces villes où... Oui, il a raison, les touristes ne viennent pas en masse chaque été chez moi à Guéret. C'est dommage parce que c'est vraiment une jolie petite ville dans un écrin de verdure. Voilà,
ça
très
me rappelle quelque chose quand même.
Oui, mais c'est vrai, c'est vrai.
Quand on est amant dans le Lozère.
On compare beaucoup la Lozère avec la Creuse.
Tout à fait.
Et on a raison. Donc, parmi les villes, il y a aussi cité Saint-Nazaire, Verdun, Maubeuge, donc je l'ai dit, Draguignan également. Donc, voilà, il nous propose d'embarquer pour un tour de France des villes qui ne font pas rêver, mais gagnent à être connues.
Guillaume ne semble pas avoir trouvé sa destination.
Et ben alors, je vais vous en parler un petit peu plus. Je vais juste vous lire le prologue, alors des extraits de son prologue, parce que rien que quand on le lit, on se dit qu'on a envie de l'acheter. Moi, j'aime beaucoup son style. C'est très frais, c'est très léger. Et puis, j'aime bien justement le fait qu'il soit complètement décalé. Alors, je vous en cite quelques passages. « Les voyageurs n'ont aucune imagination. » Ils partent explorer des terres lointaines parce qu'elles sont lointaines. Ils filent au bout du monde pour fuir leurs semblables. Là-bas, ils s'aperçoivent que le bout du monde est plein de monde venu chercher le bout du monde. Ils rêvent de Macao, de Katmandou, des générations d'aventuriers y ont traîné leur guêtre, envoûtés par on ne sait quelle magie exotique. Pourquoi pas eux ? À côté de ça, en France, des villes sont purement et simplement ignorées. Châteauroux, Bar-le-Duc, Montluçon que j'aime beaucoup aussi, dans l'Allier, Nevers. Elles sont là, quelque part, sur une ligne de chemin de fer, quand il y a une ligne de chemin de fer, au bord d'une route départementale, mais que personne ne s'y rend. Le monde entier les dédaigne. Il est temps de changer de braquet. Foin d'exotisme, place à l'endotisme. Bienvenue en France, terre d'aventure, bienvenue dans les bourgades dont vous n'entendez jamais parler ou alors en termes peu flatteurs, bienvenue en race campagne, bienvenue en zone pavillonnaire, bienvenue en lointaine banlieue. Ce livre s'intéresse aux vilains petits canards du tourisme hexagonal, aux derniers de la classe, au ventre mou du pays. On n'y trouve pas de bar branché ni d'abbaye classée, on n'y respire pas le vent de large à plein poumon, on n'y croise aucune célébrité. Quoique, au passage, juste pour vous le dire, à Guéret, eh bien, Nathalie Baye aimait venir dans la Creuse. D'ailleurs, le cinéma, eh bien, elle est la marraine de notre cinéma à Guéret. Et Johnny Hallyday a passé aussi quelques vacances près de Guéret. Voilà.
Et à Châteauroux, dont tu parlais, il y a aussi pas mal de choses autour du ciné.
Bon, et eh ben alors, voilà.
Alors moi, j'ai quand même passé une semaine de vacances dans la Nièvre il y a quelques étés, où il a plu pendant toute la durée des vacances. Et alors, je peux vous assurer qu'une semaine de vacances dans la Nièvre, en partant de pluie, franchement, au bout d'un moment, ça devient saoulant.
Mais je pense que tu peux dire la même chose de plein d'autres départements. Une semaine de pluie...
Je suis pas sûr.
Oui, mais alors, si tu décides d'aller en Corse, t'as quand même moins de chances d'avoir une semaine de pluie complète.
Oui, mais, non, mais ce que je veux dire, voilà, tu pars du principe que t'es en vacances, il pleut pendant une semaine, c'est compliqué au bout d'un moment, tu vois, de trouver quelque chose à faire.
Il y a des destinations où t'as moins de chances d'avoir une semaine complète de pluie.
Et puis, il y a des destinations où t'as d'autres choses qui sont proposées quand il y a de la pluie.
C'est vrai. Alors, c'est aussi un peu le problème de notre génération, c'est qu'on ne sait pas non plus vraiment s'occuper. Je veux dire, on peut prendre un livre, bon, c'est ce que tu as dû faire.
Tu as dû regarder
la télévision. Mais tu as dû faire quelques musées.
On ne regarde jamais la télévision.
Tu as dû faire quelques musées, visiter des moulins, tu as dû faire des choses en intérieur.
Oui, c'est ça. Mais bon, quand tu as visité le musée du coin, qui est le musée de Bibracte...
Il devait bien y avoir une ferme, bienvenue à la ferme, découverte.
Oui. Oui, bien sûr.
Non, mais le problème, encore une fois,
Allé faire une photo à poil. Le fameux village de poil.
Et Anne-Marie, parle-t-il de Mende?
Non, il n'a pas choisi Mende, parce qu'à Mende, par exemple, tu as une cathédrale. Et c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a choisi des villes où tu n'as pas de monuments extraordinaires, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'à Mende, tu as quand même une cathédrale. Et c'est rare d'avoir une petite ville quand même, parce qu'on est une petite ville.
Une si grande cathédrale,
voilà,
on est bien d'accord.
Une ville de 13 000 habitants avec une cathédrale, je pense qu'on fait partie des exceptions en France.
Oh non, il y a bien Viviers aussi.
Oui, non, mais il y en a très peu. C'est ce que je dis. C'est quand même impressionnant de voir cette grande cathédrale, immense cathédrale ici. Donc, il nous dit, j'ai donc choisi 12 destinations en France, 12 lieux où on n'irait jamais passer un week-end, donc sous préfecture déprimante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Station thermale pour rhumatisants, vallée sinistrée pour industriels, ville de garnison. Et là où j'ai été surprise, c'est qu'il a choisi aussi la Bourboule.
Des villes de garnison, ça peut être intéressant pour certains types de touristes.
Oui, après, ça dépend ce qu'on recherche.
C'est sûr. Alors, il dit, j'ai opté pour deux stations thermales que j'ai visitées hors saison, Châtel-Guyon et la Bourboule. Mais alors, pour être à la Bourboule, j'avoue que c'est une mignonne petite ville que je trouve très jolie. Alors, évidemment, pour ceux qui aiment faire la rando, c'est super.
Mais tout dépend ce qu'on recherche, de toute façon.
Oui.
On est bien d'accord.
C'est ça.
Alors, je n'ai pas, il le précise, je n'ai pas cherché à me rendre dans tous ces lieux aux périodes les plus favorables. Je n'ai pas voulu éviter la pluie, ni l'hiver, ni la morte saison. Cette France-là, je ne la voulais sans phare pour ne pas lui trouver d'excuses trop faciles. Voilà. Et je trouve qu'il a vraiment une idée hyper originale et c'est...
C'est quoi son petit nom?
Alors, c'est Vincent Nouillu. Et c'est le tour de France des villes incomprises.
Voilà. Donc, il pourrait nous faire un rendez-vous en France incomprise. Je voudrais bien voir sa tête quand même, hein, avant de m'inscrire.
Moi, je l'avais vu à la télévision. Il était invité, je crois, tu sais, au Trésor de France 2. Mmh. L'invité des 5 dernières minutes, mais je ne me souviens plus du tout quelle tête il a.
Ah, c'est pas voilà. Bon signe.
Il ne m'a pas marqué, en tout cas. Son livre m'a marqué, mais lui, pas. Bon, alors, j'ai bien vu que ça ne vous tentait pas trop. Alors, si vous rêvez d'exotisme et si vous avez envie de donner à vos vacances une autre saveur, Guillaume, je parle pour toi, puisque tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Alors, pas celle du monoeil, la saveur, mais plutôt celle de l'altruisme. Eh bien, je te conseille de...
Non, t'as pas envie. Fais la moue, hein.
De donner un petit peu de temps aux autres, je te conseille de prendre contact avec l'association Arvel Voyage. Voici ce qui est écrit donc sur le site internet de cette association sans but lucratif, hein, qui œuvre pour un tourisme contribuant à la compréhension et au respect mutuel des populations. Solidarité, plaisir de découvrir, rencontrer, partager sont les clés de voûte de ce projet d'Arvel Voyage. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que nos voyages naissent de l'esprit de curiosité, de la passion du voyage et de 40 années d'expérience de terrain. Ils sont la mise en pratique d'aspirations humanisme et d'une réflexion permanente sur la signification du voyage. Arvel est une entreprise responsable qui met son savoir-faire au service de ses valeurs. Alors, j'ai vu la liste qu'ils proposent des destinations. C'est une liste qui est très longue. Alors, si tu as envie de partir en Chypre ou Chine, il n'y a pas de souci. Nicaragua, Guillaume, Colombie, Maroc, Mexique, Bulgarie. Il y a vraiment un choix assez important au niveau des destinations. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, sur place, il y a une personne qui te fait visiter le pays, mais pas d'une façon, j'ai envie de dire, touristique. C'est plutôt un animateur qui va te permettre de rencontrer la population locale. Tu vas aussi pouvoir financièrement aider des projets avec une ONG sur place, une association locale. Oh là là,
il a l'air passionné.
Ah oui, c'est incroyable. Alors, pour information, Arvel propose aux revenus les plus modestes des réductions solidarité. Je trouve ça... Je trouve ça vachement bien sur une quinzaine de destinations en France ou à l'étranger. Par ailleurs, selon l'association, des centaines d'actions solidaires ont été menées. Alors, il précise que ce sont des actions qui sont modestes, mais elles ont le mérite d'exister. Par exemple, comme un microcrédit accordé à un agriculteur malgache, un soutien à une équipe de foot vietnamienne. Donc, non, ça t'intéresse toujours pas, Guillaume ?
Enfin, c'est pas effectivement ce que je cherche pour ces vacances-là, mais...
Bon. Et donc, quand tu pars, t'as une contribution financière en fonction du prix du voyage qui est reversée aux partenaires pour donc, le financement de projets de développement local sur du long terme. Voilà.
Mais l'initiative est très intéressante.
Oui, bon, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je trouvais ça plutôt pas mal. Alors, donc ça, c'était concernant l'altruisme. Si plutôt tu es solitaire, si tu as envie de partir en vacances tout seul avec ton sac sur le dos...
Ah, ça y est, il sourit, là.
Presque.
Ouais. Ouais, c'est le sac sur le dos, bon, on va voir.
Je te conseille de prendre contact avec ABM pour... Aventure au bout du monde. Là aussi, c'est une association dont le but est d'encourager le voyage individuel, proche ou lointain, donc d'un style simple et naturel dans le respect des pays visités. Cette association existe quand même depuis 28 ans. Il se trouve que j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, il y a des antennes dans toute la France. Alors, il n'y en a pas à Mende, mais j'ai vu qu'il y en avait à Aix-en-Provence, Grenoble, Montpellier, Rouen ou Lyon.
Et Rouen, tu ne nous fais pas celles qui nous sont le plus proches de chez nous, quand même.
Non, mais c'était pour montrer qu'il y en avait partout en France. Donc, ce sont des antennes qui permettent aux futurs voyageurs ou à ceux qui ont voyagé grâce à cette association Aventure au bout du monde de partager des informations, des soirées à thème où je vous montre les photos de mon voyage...
C'est aventure au sens premier du terme, hein.
C'est pas Koh-Lanta.
Ah non.
Ou au sens aventure amoureuse, j'entends.
Ah non. Ah bah non. C'est parce que le principe, encore une fois, c'est plutôt quand t'es solitaire, si tu veux partir seul.
Mais justement.
Mais c'est pour avoir des tuyaux. Ah oui. Non. Ah mais après, tu peux rencontrer quelqu'un si t'as envie, si t'as
les soirées diapo, hein, ça peut le faire.
autour d'un bon petit gâteau et d'une tisane.
Au lieu de t'endormir devant les diapos, tu dragues ta voisine et c'est bon. Hein,
on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette association ? Tout simplement parce qu'elle aide le futur voyageur à préparer son voyage grâce à des conseils, à des bons plans et nous met donc en relation avec d'autres voyageurs. Et c'est ce à quoi ça sert donc ce genre d'antenne. Voilà. Bon, alors, j'ai l'impression que ça ne te plaisait pas plus que ça, Guillaume. Alors, je vais te proposer une dernière idée.
Ah, peut-être la bonne.
Voilà. en tout cas, la moins chère. Ah. Puisque si on veut être vraiment très original, même, en même temps, je le déconseille, évidemment. Je le déconseille fortement. Mais je trouvais ça marrant, donc je voulais quand même vous en parler. C'est de voyager dans sa tête.
Ah.
Pas besoin de faire des valises. Il y a Jeff Warren, alors c'est un Canadien, qui a passé 4 nuits sous l'emprise de l'ayahuasca. Je ne sais pas si vous connaissez l'ayahuasca, c'est une drogue sud-américaine. En fait, c'est un breuvage à base de lianes consommé par les chamoines des tribus indiennes d'Amazonie. Donc, c'est pour ça que je dis, je vous déconseille oui, fortement cette option. mais en tout cas, voilà, il a passé 4 nuits sous l'emprise de cette drogue.
Les produits illicites sont interdits, hein, je le rappelle.
Exactement. Non, mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que...
C'est pas ceux-là qu'il faut consommer avec modération.
En même temps...
Bah, ceux-là, ils sont illicites carrément.
En même temps, Guillaume, je peux en parler puisque en France, va trouver un breuvage à base de lianes. C'est pas dit que t'en trouves beaucoup. Et donc, ce Jeff Warren raconte son aventure dans son article « Touriste de ma conscience ». Je suis rentrée à la maison en étant habitée d'un calme et d'une lucidité, je vais y arriver, peu commun. Selon lui, le tourisme occidental a eu son content de voyage dans l'espace. Il veut maintenant explorer sa conscience. Avis aux amateurs.
C'est beau.
Voilà.
Alors moi, je proposerai une dernière idée parce que quand même, il faut pas le négliger, mais... La Lozère est belle en été, quand même.
Ah, mais bien sûr.
Et oui, vous pourrez nous retrouver pendant tout le mois de juillet jusqu'au 8 août sur la tournée Lozère Nouvelle Vie,
voilà.
En partenariat avec la radio associative de Lozère. Donc, on pourra justement découvrir cette Lozère tout au long de l'été.
Très bien. Alors, pour finir, je vous propose d'écouter, évidemment, Voyage, Voyage de Désirless.
Oh!
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Ah ben ouais, ça nous a fait partir en voyage.
Exactement, mais on revient à Mende, on revient en Lozère. Et Guillaume, tu vas nous parler des Lucs.
Et oui, je vais vous parler des Lucs célèbres. Voilà, un petit coucou, effectivement, au départ de Luc Crespon, voilà, qui repart pour de nouveaux horizons professionnels à Montpellier. Et donc, voilà, Luc, que vous entendiez aussi sur la radio dans l'Instant Sport, dans Hérissong, ben voilà, qui nous quitte. Et donc, ben voilà, j'avais envie de vous faire découvrir quelques Lucs célèbres. Alors, je sais pas, autour de la table, là, comme ça, vous penseriez à qui en premier?
Bah alors, j'avoue, quand tu nous as donné le sujet, rien ne m'est venu, mais vraiment rien, quoi.
Alors, moi, j'ai eu deux noms, on va dire. C'était Luc Plamondon.
Ah oui. Ouais,
on verra ça tout à l'heure.
Et l'évangéliste. Voilà ce à quoi j'ai pensé quand j'ai pensé au Luc. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Autant il y a des gens Luc, autant Luc tout court, c'est plus compliqué.
Et voilà, et donc on va commencer quand même avec quelqu'un qui est très connu, hein, Luc Besson, réalisateur, producteur, scénariste, né le 18 mars 1959 dans le 15e arrondissement de Paris. En tant que réalisateur, il s'est démarqué avec les films Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc, Arthur et les Minimoys, The Lady et Lucie. En tant que producteur avec sa société de production Europacorp, il est surtout connu pour les séries de films Taxi, Taken et Le Transporteur. Il est aussi à l'origine de La Cité du cinéma en banlieue parisienne. Pour tous ses films, il est nommé de nombreuses fois au César. Et en 1998, il reçoit celui du meilleur réalisateur pour Le Cinquième Élément. Alors après,
il ne faut pas oublier qu'il avait choisi la Lozère pour une petite scène de Lucie.
Tout à fait.
Les gorges du Tarn.
Tout à fait. Alors, on va poursuivre maintenant avec un Luc, paraît-il, célèbre. Effectivement, quand j'ai préparé cette chronique...
j'aime bien le paraît-il.
Je vous avoue que je ne le connaissais pas, mais c'est quand même quelqu'un de, vous allez voir, d'intéressant. Donc, dans l'histoire, c'est Luc de Clapiers. Donc, c'est aussi un petit lien avec cette rue des Clapiers dans laquelle nous sommes. Marquis de Vauvenargues, écrivain français, moraliste et aphoriste. Alors, Luc de Vauvenargues naît à Aix-en-Provence, d'une famille noble, aux revenus modestes. Au cours de ses études au collège d'Aix, il n'étudia ni le latin ni le grec, mais devint un grand admirateur de Plutarque, qu'il avait lu en traduction. Il s'engage dans l'armée, il sert pendant 10 ans, prenant part à la guerre de succession de Pologne, à la campagne d'Italie du maréchal de Villars en 1733, et à la désastreuse expédition en Bohême pour soutenir les ambitions de Frédéric II de Prusse sur la Silésie, dans laquelle les Français furent délaissés par leurs alliés. Vauvenargues prit part à la retraite de Prague du maréchal de Belle-Île. Il eut la jambe glacée et, malgré un long séjour à l'hôpital de Nancy, ne s'en remit jamais tout à fait. De retour en France après la bataille de Dettingen, il fut assigné à la garnison d'Arras, ce qui marqua la fin de sa carrière militaire. Alors voilà, c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Son ami, le marquis de Mirabeau, auteur de L'Ami des Hommes et père de Mirabeau, l'homme politique, le poussa à se tourner vers la littérature, mais il était trop pauvre pour monter à Paris. Il chercha en vain à entrer dans le service diplomatique. Une attaque de variole mit fin à cette ambition. Vauvenargues s'installa finalement à Paris en 1745 et y mena une vie retirée, ne fréquentant que quelques amis, dont Jean-François Marmontel et Voltaire. Il avait parmi ses correspondants l'archéologue Foris de Saint-Vincent. Sur les conseils de Voltaire et les exhortations de Mirabeau, il passa outre aux objections de son père et se lança dans l'écriture. Il reprit les observations et notes de tout ordre jetées naguère sur le papier et publia en 1746, sous le voile de l'anonymat, une introduction à la connaissance de l'esprit humain, suivie de quelques réflexions et maximes. Le livre ne passa pas totalement inaperçu, mais l'accueil ne fut pas très chaleureux. Voltaire, qui n'avait jamais douté de son talent, incita Vauvenargues à reprendre son ouvrage pour rendre le livre excellent d'un bout à l'autre en vue d'une seconde édition. Fin de citation. Il suivit les conseils de Voltaire, retoucha le style en mains endroits et supprima plus de 200 pensées. Cette édition, publiée de manière posthume en 1747, est la plus fidèle aux idées du moraliste. Il mourut à Paris le 28 mai 1747 à l'âge de 31 ans. Au travers de différents portraits, on découvre une âme pure et fière, généreuse et tendre, éprise d'idéal, un homme au jugement ferme, lucide et pondéré, non dénué de finesse.
On passe à un autre Luc. Je suis pas sûre qu'on le retienne, celui-ci.
Bah, oui, là, vraiment.
Parce que quand t'as dit, bon, c'est là que ça devient intéressant, je me demande encore où vous aider le passage.
Bon, alors on reste dans les écrivains et philosophes avec Luc Ferry aussi, alors, sur lequel on va passer très rapidement. Luc Ferry, né le 3 janvier 1951 à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, il est un essayiste français, ancien professeur de philosophie et ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la recherche dans les gouvernements 1 et 2 de Jean-Pierre Raffarin.
Je ne suis pas sûre que les enseignants gardent forcément
un très bon souvenir.
Un très bon souvenir de Luc Ferry. Hein.
C'est pour ça que je n'ai pas trop développé. Alors, on va poursuivre cette fois-ci avec un personnage de fiction aussi. Moi, c'est le premier qui m'est venu, je crois. Ah. Et pourtant, je ne suis pas du tout fan de cette fiction, cette saga Star Wars. Et c'est évidemment Luke Skywalker. Luke Skywalker.
Alors pour le coup, notre Luc Crespon, lui, est un grand, grand fan.
Et oui, voilà. Donc, personnage principal de la trilogie originale Star Wars. Il est le fils d'Anakin Skywalker et de Padmé Amidala, et le frère jumeau de la princesse Leia Organa. Il naît dans la Revanche des Sith. Il devient un chevalier Jedi et sera le héros de l'Alliance Rebelle pendant la guerre civile galactique dans Un Nouvel Espoir. L'Empire contre-attaque, le retour et le retour du Jedi. 3 décennies plus tard, il est le dernier Jedi en vie et s'est exilé sur une planète reculée.
Bon, alors on passe à un Luke et justement, bah, j'y avais pensé à celui-ci.
Et oui, Luc Plamondon, compositeur et musicien québécois. Luc Plamondon, né le 2 mars 1942 à Saint-Raymond, dans le comté du Portneuf à Québec. Il est un producteur et parolier québécois, notamment de Julie Harel, Daniel Balavoine, Barbara, Gilbert Bécaud, Isabelle Boulay, Robert Charlebois, Pétula Clark, Julien Clerc, Nicole Croisy, Céline Dion, Diane Dufresne, Diane Tell, Sylvie Vartan et bien d'autres encore. Mais il est surtout connu pour son travail dans les comédies musicales, notamment Starmania et Notre-Dame de Paris. Et tout de suite, un petit extrait de Starmania, Le Monde est Stone.
Thank you.
Voilà, bon, ça c'était la version Luc Plamondon. On écoutera un deuxième extrait, évidemment, tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on va évidemment passer...
Il y a d'autres Luc célèbres, donc.
Oui, il y a d'autres Luc célèbres.
Plus célèbres que le deuxième dont tu nous as parlé, j'espère.
Oui, oui.
Enfin, la célébrité, c'est quand même relatif. Hein. On va le voir.
Ça, c'est ça.
Alors, on va quand même parler un peu de sport, et pour terminer cette chronique. Voilà, c'est quand même à la sportive de Midi Libre que Luc part. Donc, on va essayer de trouver des
Luc célèbres.
Célèbres sportifs. Voilà. Alors, on commence avec Luc Borelli, footballeur français.
Ça commence bien.
Ça commence bien.
Oui.
Footballeur français, né le 2 juin 1965 à Marseille, décédé en février 1999 à 33 ans. Il est découvert à la SPTT Marseille, son club formateur. Il fut l'un des premiers gardiens issus d'une formation spécifique. Dans les années 90 pour la formation des gardiens. Il découvre le haut niveau au Sporting Toulon VAR où il arrive en 1986. Il s'impose progressivement comme le titulaire du poste. À la suite de la relégation du club sudiste en 93, il est recruté par le Paris Saint-Germain comme doublure de Bernard Lama. Titulaire pour la seule coupe de la Ligue 1994-1995, il remporte la compétition. Et après deux saisons dans la capitale, il part au stade Malherbe de Caen, tout juste relégué en deuxième division, avec lequel il remporte le championnat dès la première saison. Le club est de nouveau relégué la saison suivante. Après trois saisons comme titulaire en Normandie, Borelli quitte le club pour l'Olympique Lyonnais. Son dernier match à Caen le voit marquer un but sur pénalty. Il devient donc la doublure de Grégory Coupet et il décède au cours de la saison dans un accident de la route. Par la suite, l'Olympique Lyonnais retire pendant un temps le numéro 16 de l'effectif. Le Sporting Toulon VAR donne son nom à une des tribunes du stade de Bonrencontre lors de la saison 1999-2000 à la suite de son décès. Et le stade Malherbe de Caen en fait de même au stade Michel Dornano. En septembre 2003, la populaire B devient la tribune Luc Borelli. Alors, sa famille continue à honorer sa mémoire aussi chaque année avec des stages de football pour joueurs de champ et gardiens de but à Sainte-Tulle, parrainé par de nombreux joueurs professionnels. C'est un gardien de but qui a été réputé pour ses qualités humaines à dans plusieurs clubs français en première et deuxième division, inhumé au cimetière Saint-Pierre de Marseille.
Et il n'a jamais joué à l'OM, donc.
Et non.
Bon, on passe à un autre Luc sportif, célèbre.
Un autre.
Très célèbre, hein, Anne-Marie.
Un autre footballeur, Luc Sonor.
Ah oui.
Français d'origine antillaise, né en septembre 62 à Basse-Terre, en Guadeloupe. Ancien footballeur français, cet antillais d'origine connaît le centre de formation de Sedan, puis du FC Metz. Il est ensuite transféré à l'AS Monaco, où sa carrière s'envole avec son intégration en équipe de France. Il termine sa carrière en Écosse. Luc Sonor n'est pas c'est une dégaine, un style bien particulier. L'ancien défenseur de l'AS Monaco ou du FC Metz n'est pas du genre à faire des détails au cours du match. Dur sur l'homme, il est intraitable à son poste de défenseur, que ce soit en tant que latéral droit, latéral gauche ou en stopper. Il devient en juin 2008 entraîneur adjoint de l'AS Saint-Etienne et il est actuellement consultant sur les chaînes du groupe Canal+.
Voilà. Tu le connaissais, Karl ?
Absolument pas. Autant Borelli, oui. Quand il a été la doublure de...
Ça, c'est ton côté lyonnais.
Ça, c'est mon côté lyonnais qui ressort. Mais alors, là, vraiment, celui-là, absolument pas.
Bon, allez.
Le prochain, oui, quand même.
Le prochain, ouais. A priori, il est quand même connu.
Même un petit chouchou, quand même.
Ah, il est quand même pas mal, oui.
Ah oui.
Voilà. Donc, on va parler de Luc Alphand, né le 6 août 1965 à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Il fait ses débuts en Coupe du Monde de ski alpin en 84. Il est l'un des quatre membres de l'équipe des Top Gun formée et entraînée par Serge Guillaume en marge des infrastructures de la Fédération française de ski de 1987 à 1991 avec Franck Picard, Jean-Luc Crétier et Denis Rey. Cependant très souvent blessé, il faudra attendre le 14 janvier 1995 pour fêter sa première victoire. C'est en fait une double victoire car il remporte les deux descentes qui se déroulent coup sur coup sur la célèbre piste de la Streff à Kitzbühel. À partir de ses deux succès initiaux et durant les deux saisons qui suivent, il domine les épreuves de vitesse, descente et super-G de la Coupe du Monde, s'imposant sur la plupart des grandes pistes du circuit. Il remporte le globe de cristal du classement de la Coupe du Monde de descente 3 années de suite et enlève au passage sa seule médaille dans un championnat du monde sur les pentes de la station de Sierra Nevada en Andalousie en février 1996 où il se classe 3e de la descente. En 1997 sera la grande année de sa carrière de skieur puisqu'il réussit à remporter le gros globe de cristal, le classement général de la Coupe du Monde, toutes disciplines confondues, ce que côté français, seul Jean-Claude Killy avait fait avant lui en 1967. et il a fait ça en ne concourant que dans les deux épreuves de vitesse. Il lui aura par conséquent fallu s'imposer 4 fois en descente et 2 fois en super-G, et ne pas quitter les podiums durant tout l'hiver pour devancer les skieurs polyvalents, capables de marquer des points dans toutes les disciplines, c'est-à-dire disputant également, à l'inverse du champion de Serge Chevalier, le slalom, le géant et le combiné. L'exploit consistant à remporter le gros globe en ne disputant que 2 épreuves de vitesse reste unique dans l'histoire de la Coupe du Monde de ski alpin. Alors il ne connaît qu'un seul échec durant cet hiver couronné de succès, le 8 février, une faute de car met rapidement un terme à sa descente sur la piste Bancetta lors des championnats du monde à Sestrières, où il s'est lancé en grand favori. À l'issue de cette saison 97, sacré champion des champions français par le journal L'Équipe en fin d'année, Luc Alphand annonce qu'il met un terme à sa carrière de skieur à 32 ans, avec un bilan en Coupe du Monde de 12 victoires, dont 10 en descente. Quelques mois plus tard, c'est en commentateur dans la cabine de France Télévisions à Akouba qu'il assiste à la victoire de son ancien coéquipier Jean-Luc Crétier dans la descente des Jeux Olympiques de Nagano le 13 février 1998. Une piste noire dans sa station de Serre Chevalier est nommée en son honneur. Alors après avoir tiré un trait sur les compétitions de ski, il commence rapidement une nouvelle carrière de pilote automobile pour vivre sa passion. Après quelques années, il s'illustre sur le rallye Dakar, progressant au fur et à mesure de ses participations jusqu'à atteindre la deuxième place en 2005, puis la victoire en 2006 et à nouveau une deuxième place en 2007. Depuis 2001, il participe aussi aux 24 heures du Mans, réussissant sa meilleure performance en 2006 à la septième place du classement général. En juin 2009, il est victime d'un grave accident de moto dans le cadre du rallye Rente d'Auvergne. Et en 2011, Luc Alphand se lance un nouveau défi en choisissant de se lancer dans la course au large. Pour cela, il est épaulé par le navigateur confirmé Marc Tircelin au sein du projet Les filières du talent DCNS. Ils participent ensemble à la Transat Jacques Vabre 2011 sur le monocoque de 60 pieds DCNS 1000 qu'ils doivent abandonner au cinquième jour de course.
Alors Luc Alphand qui est venu plusieurs fois en Lozère pour le trèfle, hein, qui est un pilote charmant.
Voilà, on poursuit avec un autre Luc.
Ça ne décoiffe pas Anne-Marie, hein, faut bien le dire.
Ça ne décoiffe pas Anne-Marie. Pourtant, là, on est quand même dans un régional de l'étape pour elle, mais pour autant, ça ne l'aide pas a priori. Luc Leblanc.
Ah, bah quand même, si, Anne-Marie.
Né le 4 août 66 à Limoges.
Ah oui, forcément.
Un coureur cycliste français professionnel de 87 à 98. Il fut sacré champion du monde sur route en 94 à Agrigente. En Sicile, dans une course de pente très difficile. Sur le Tour de France, il porte le maillot jaune en 1991 à Jacquat. Puis en 1994, il gagne une étape à Hautacam dans le brouillard devant Miguel Indurain et Marco Pantani. Aux Arcs, en 1996, il gagne sa deuxième victoire d'étape dans le Tour de France. Luc Leblanc est consultant pour RMC pendant le Tour de France depuis 2001 et tient également une chronique mensuelle dans le sport vélo. Voilà, bon, on était avec les plus vieux, on va dire, les plus sportifs, les plus vieux, et on va parler maintenant d'un
petit dernier pour la route.
Un petit dernier pour la route, un petit dernier beaucoup plus jeune, ce qui a quasiment le même âge que moi.
Un tout jeune alors.
Oui, mais bon, là, il n'a pas le même physique que moi.
Un bébé sportif.
Mais bon, donc Luc Abalot, le 6 septembre 84 à Ivry, né le 6 septembre 84 à Ivry-sur-Seine. C'est un joueur français de handball, évoluant en poste d'ailier droit et parfois d'arrière droit. Il évolue en équipe de France depuis 2005 et compte donc à son palmarès 3 titres européens, 2 titres mondiaux et 2 médailles d'or olympiques. Et il évolue depuis 2012 au Paris Saint-Germain Handball. Voilà, il est né de parents togolais, détecté très tôt par l'US Ivry. Et ensuite, voilà, il continue sa carrière. Il devient titulaire du poste d'ailier au sein de l'équipe de France lors du championnat d'Europe 2006, une compétition qui apporte avec le titre européen la première médaille française lors d'un euro. Voilà, il reste 12 saisons au sein de l'US Ivry Handball, remportant notamment le championnat de France 2007. En 2008, il rejoint à la fin de son contrat qu'il lie avec son club, la Ciudad Real, le vainqueur de la Ligue des Champions. Il retrouve son coéquipier en équipe de France, Didier Dinard. Et donc en Espagne, il confirme avec voilà, il a le titre olympique qu'on évoquait tout à l'heure en 2008 à Pékin. Ensuite, il gagne différentes coupes avec champion d'Espagne, Ligue des Champions. Voilà, donc beaucoup de réussite pour ce membre des experts. Voilà, de cette équipe de handball française qui nous fait bien rêver très souvent. Et ben donc en 2000, donc maintenant il est au Paris Saint-Germain Handball, hein, où vient d'investir le Qatar depuis 2012. Et il remporte, à l'issue de la saison son deuxième titre de champion de France. Mes doigts s'inclinaient en finale en 2013, je vais y arriver. Mes doigts s'inclinaient en finale de Coupe de France en 2013 face au Montpellier. Montpellier handball, et donc peut-être que justement on le retrouvera déjà de toute façon en 2014. Il est à nouveau champion d'Europe et on l'attend aussi cet été à Rio avec l'équipe de France de handball. Qu'on espère qu'il va briller. Voilà. Peut-être de futurs articles pour notre ami Luc.
Peut-être.
Et donc on écoute pour finir.
Notre-Dame de Paris, Luc Plamondon.
Il est venu le
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Allez, troisième partie de notre émission avec toi, Caroline. Et donc, tu nous proposes de voyager aussi un petit peu.
Oui, un petit peu, voilà. Alors, pour vous raconter, au gré de notre métier de journaliste avec Anne-Marie, c'est vrai qu'on a parfois la chance de rencontres un peu sympas. Alors, c'est pas le quotidien, hein, mais de temps en temps, quand même. Et, on revient d'un reportage en se disant ben, c'est un peu pour ça que je fais ce boulot-là. Je veux pas être chienne, hein, ça arrive quand même régulièrement. Et ça m'est arrivé récemment dans une école amande, au groupe scolaire, je vais la citer, même s'il n'y a pas eu qu'elle de concernée par le projet. Mais en tout cas, moi, j'ai été invitée au groupe scolaire dans la classe de Bruno Portal, une classe de CE2, et qui accueillait l'auteur et illustratrice de jeunesse, Tatiana Domas, dans le cadre des interventions scolaires du festival Enimi BD. Alors, ça a été une très, très belle matinée. L'auteur a présenté un petit peu son parcours et son travail aux enfants. Elle avait amené ses albums. Et puis, une demi-heure avant la fin de la séance, elle a mis les enfants en action. Et elle leur a donc proposé de dessiner. Alors, c'est quelque chose de difficile. Hein. On sait tous. Hein. On est, à part quelques exceptions, généralement pas très bon en dessin. Mais elle a fait ça avec beaucoup de talent, beaucoup de tact. Et franchement, les gamins sont arrivés au bout d'une demi-heure à une production tout à fait convenable. Le sourire aux lèvres, tous ravis. Et il y en a même un qui est sorti de la salle en disant ben, « j'avais jamais dessiné aussi bien ». Ils étaient vraiment enfin, un petit moment de bonheur et qui sont certainement la chance de nos enseignants, c'est justement d'avoir de temps en temps ces petites étincelles où ça se passe bien. Alors, il faut savoir que dans la classe de Bruno Portal, le dessin, on connaît quand même, hein, puisque il s'était d'ailleurs lui-même mis au crayon ce jour-là, et il a réalisé quelque chose de très sympa, et qu'il fait faire de l'aquarelle à ses élèves, aussi souvent qu'il peut, donc pas assez souvent selon lui, mais en tout cas un petit peu. Enfin, en tout cas, ça a été une très très belle rencontre.
Ils ont dessiné des sorcières.
Donc ils ont dessiné des sorcières, puisque le personnage principal de Tatiana Domas en ce moment, c'est une petite sorcière qui s'appelle Miralda, une adorable petite sorcière à qui il arrive des aventures très sympas. Donc je vous recommande, elle a déjà fait 4 albums avec cette petite Miralda. Alors, qui est une petite sorcière qui habite en ville, qui a 3 chats, un balai, bien évidemment. Et oui, ils ont dessiné cette petite sorcière. Et franchement, enfin, moi, j'étais épatée du résultat parce que c'était très chouette. Elle les a amenés à faire ça, vraiment. Enfin, c'était un peu magique, quoi. Voilà. Et alors, il se trouve qu'en discutant avec elle, ce sont les hasards de la vie. Tatiana Domas a véritablement débuté dans ce métier à la suite d'un festival dans la banlieue lyonnaise, et un festival où j'ai moi-même été bénévole il y a fort longtemps. Et à l'époque où j'y étais bénévole, j'étais complètement fan de 2 auteurs de BD, les frères Stalner, Eric et Jean-Marc. Et il se trouve que Tatiana est la compagne aujourd'hui de Jean-Marc. Donc c'est les hasards complets de la vie. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça quand même, tu te dis, mais ouf. Donc ça a été une rencontre vraiment sympa. Je vous encourage vivement à aller au festival d'Enimi BD. Ce sera les 25 et 26 juin prochains. Tatiana y sera avec ses albums et elle sera accompagnée de Jean-Marc avec ses albums aussi. Alors ils ont une série en commun, Belle et Sébastien, une série récente. Alors, moi j'aime beaucoup les dessins de Stalner, les deux frères. Hein, ils ont beaucoup travaillé ensemble à leur début. Ils ont fait plusieurs séries, dont Fabien M, qui est une très très belle série dans le Paris du 19e. Moi j'adore, c'est des très très beaux dessins. Bon, ils sont un peu fâchés, semble-t-il, donc je ne vais pas en parler trop longtemps de deux. L'un suivant le cours de la BD classique, on va dire, hein, dans les grandes maisons d'édition, Tatiana et Jean-Marc ayant choisi de suivre plutôt le chemin de la BD alternative qui marche plutôt bien actuellement et qui essaye un peu de sortir de la voie commerciale. Alors voilà, Tatiana, avec sa petite sorcière Miralda, elle est éditée Alors, Anne-Marie fait du dessin pendant que je vous raconte tout ça. Tatiana a été éditée pour le début de cette série par une petite maison d'édition associative qui s'appelle La Fourmilière BD, qui est une maison d'édition qui met le pied à l'étrier de jeunes auteurs et qui ensuite essaye de leur permettre de voguer de leurs propres ailes. Donc le dernier tome de cette série, le tome 4, est sorti auto-publié par Tatiana. Voilà. Elle travaille sur cette série avec sa sœur. Elle a des couleurs absolument éclatantes. Enfin, c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Si vous allez au Festival de la BD, n'hésitez pas, quand vous les verrez, ils ont fait l'affiche de cette édition 2016. Donc Jean-Marc a fait le dessin. Il y a un dessin, vous verrez si vous leur demandez, un dessin très 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 détaillé en noir et blanc au crayon, mais vraiment où il y a tous les détails. Tatiana a mis la couleur dessus et alors c'est incroyable parce que c'est c'est complètement différent finalement. On retrouve pas. Elle a effacé les détails de Jean-Marc sur lequel pourtant elle s'est appuyée pour mettre la couleur. Et c'est vraiment deux étapes qui sont impressionnantes et qui permettent un peu de découvrir les coulisses de ce monde de la BD. Donc n'hésitez pas à leur demander. Je pense que ce sera exposé parce que c'est vraiment un cours du coup de couleurs et ça montre l'importance des couleurs dans la BD et des coloristes. Il y a des gens qui ne font que ça et c'est très 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 important. Alors Tatiana, elle a aussi fait un album en 2012 et je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment découvert ça au groupe scolaire et j'ai trouvé ça magnifique. Ça s'appelle Le Royaume d'Estompe. C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui perd son grand-père. C'est bien évidemment une initiation à la mort, mais c'est fait avec beaucoup de finesse. Alors, le scénario n'est pas de Tatiana, il est de Jean-Christophe Devenet. Elle en a fait les dessins et la couleur, là aussi. Et très franchement, c'est parfois compliqué d'expliquer ces choses-là aux enfants. Des fois, un livre peut aider. Je pense que celui-là fait partie de ceux que l'on peut mettre dans les mains des enfants. Un peu grand, bien sûr, mais voilà, une chose intéressante, en tout cas. Elle écrit donc beaucoup pour la jeunesse. Alors, moi, j'aime beaucoup quand c'est fait avec talent, parce que c'est tout à fait... Le talent vaut aussi pour les grands, dans ces cas-là, et ces albums jeunesse sont généralement à mettre entre toutes les mains. Donc, c'est le cas de ceux de Tatiana. Je vous recommande de la découvrir. Donc, la série Miralda, qui sera à Saint-Enimier, elle a une petite série aussi qui s'appelle Théo. Théo est un petit garçon... en souffrance, qui ne parle pas dans le premier tome. C'est aussi une histoire très très belle, vraiment à découvrir. Alors avec Tatiana et cette séance au groupe scolaire Jean Bonijol, j'ai découvert quelque chose d'assez sympa, c'est qu'il existe une charte des auteurs de jeunesse, de littérature jeunesse. Elle en fait partie, elle l'a signée, Tatiana. C'est une charte qui leur permet, alors déjà par exemple quand ils font ce genre d'intervention scolaire, ça leur permet d'avoir un prix harmonisé et ils ont un certain nombre d'heures à faire par an et pas plus. Ça leur permet aussi, alors ça leur permet de vivre bien sûr économiquement, mais ça leur permet aussi de garder une large place à la création. C'est quelque chose qui leur permet de blinder un peu des métiers où c'est compliqué, bien évidemment. Et j'ai découvert cette charte donc des auteurs de jeunesse et c'est quelque chose d'assez chouette et qui leur permet d'avoir un cadre, voilà. Donc rendez-vous au Festival de la BD. Alors bien évidemment, ils ne seront pas tout seuls, tous les deux. Il y aura beaucoup de monde. La liste des auteurs n'est pas d'ailleurs définitivement arrêtée. Elle se remplit un petit peu chaque jour. En tout cas, vous pourrez retrouver des gens comme Alep, Deloupi, Ulrich Stahl, qui vient depuis de nombreuses années maintenant à Saint-Enimier, William Angel, Nina Jacquin, Christophe Girard, Laurent Surac, Marc Bourgne, Nicolas Guéret, Marico, Mimi Chan, et des éditions, toutes petites maisons d'édition alternatives, dont je parlais tout à l'heure. Alors vous pourrez retrouver Commune Orange, qui se définit comme une maison d'édition associative, équitable et militante. Les éditions Jargile aussi, qui se décrivent comme des éditions alternatives, avec leur collection BN2. Et puis la petite maison aussi, Les Enfants Rouges. Voilà, c'est un choix d'Enimi BD de mettre en avant ces petites maisons qui sont dans ces voies alternatives, pas très grand commerce et grand public, et qui ont le mérite de donner leur chance à de jeunes auteurs, et je trouve ça très très méritant. Voilà. Donc à découvrir les 25 et 26 juin à Saint-Enimie, c'est toujours des moments très sympas ce festival, avec beaucoup d'animation dans la cité médiévale, des séances de dédicaces bien sûr, là on peut voir les auteurs à l'œuvre, et c'est toujours quelque chose que de les voir dessiner en direct.
Bon, bah le rendez-vous est pris alors.
Voilà.
Alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour rester dans ce thème ?
Alors non, ça n'a rien à voir avec la BD.
Si, quand même, un peu.
Mais un petit peu, ouais, peut-être. En tout cas, quelque chose qu'on écoute beaucoup en famille en ce moment et qui nous plaît bien à tous. Et quand j'ai dit tout à l'heure Anne-Marie Adia, ben oui, c'est chouette. C'est Boulevard Désert, Bruxelles. En plus, ça fait un petit,
ah oui, le petit
retour sur l'actualité. Et puis il y a la BD, voilà. Donc.
Connaissait pas encore notre aventure, Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je resterais tranquille. Pour qu'on le soit, si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actu, elle et lui.
Et voilà, c'est la fin de cette émission.
Déjà.
Et oui.
C'est vite
passé. On vous souhaite une très bonne quinzaine. Vous pouvez nous réécouter le mardi à 19h et le jeudi à midi et demi.
À moins que vous soyez parti en vacances sur les conseils avisés d'Anne-Marie.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut toujours nous écouter sur Internet.
Exactement.
48FM.
À l'autre bout du monde.
À très bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Belle quinzaine. Actuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.